Prions. Seigneur, nous avons chanté ce matin ta majesté. Nous avons dit que tu étais couronné de 1000 couronnes, Seigneur. Nous avons vu dans nos cœurs, dans les paroles de ces chants, Seigneur, ta puissance que nous pouvons célébrer parce que c'est une puissance qui s'accompagne d'un amour sans fin pour nous, tous les hommes, Seigneur. Et tu te révèles à nous dans ta parole. Seigneur, merci pour l'Ancien Testament. Souvent, on le néglige parce qu'on pense qu'il est trop ancien, mais quand on le lit, on voit qu'il parle de la permanence de ton caractère, la permanence de ta sainteté, de ton amour, qui s'accompagne de son revers, la justice et même la punition, Seigneur. Mais Seigneur, il faut que nous te connaissions en vérité pour vraiment vivre nos vies de façon éclairée et sage. Seigneur, parle-nous ce matin par l'intermédiaire de ce texte inspiré par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui est en nous, qui est sur nous si nous lui demandons de venir nous rendre capables d'être tes témoins, des témoins fidèles. Seigneur, merci d'avoir inspiré ce texte au prophète Nahum. Voilà, plus de 2500 ans, Seigneur. Et merci pour son actualité. Merci pour les leçons que tu nous permets d'en retirer. Captive nos cœurs, Seigneur, et transforme nos cœurs, Seigneur. Nous savons qu'ils sont tortueux par-dessus tout. Mais toi, Seigneur, tu es droit, tu es lumière, tu es pureté, et tu veux nous transformer. Seigneur, nous pensons à tous nos frères et sœurs dans les églises qui t'adorent en esprit et en vérité, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays de France, Seigneur, qui semble si loin de toi. Merci, Seigneur, de nous parler ce matin. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. On a annoncé donc la semaine dernière qu'on allait revenir à l'Ancien Testament après avoir passé plusieurs mois à étudier la lettre de Paul aux Romains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que cette lettre de Paul aux Romains, elle s'inspirait en partie par des passages qu'on va trouver dans notre texte aujourd'hui. On va s'attacher à plutôt un survol. On va lire Nahum, la prophétie. C'est le septième, si je ne me trompe pas, des petits prophètes. Alors, si vous ne connaissez pas son nom, ce n'est pas grave, on va le découvrir aujourd'hui. Ces petits prophètes se trouvent au milieu de la Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a un numéro de page. 1043. Si vous avez la Bible qui est disponible en prêt pendant le culte, c'est page 1043. On me dit merci. La semaine prochaine, Dieu voulant, Alistair étudiera le livre d'Habacuc. Donc on va progresser un peu rapidement. Je vous invite à relire ces livres, des petits prophètes. Encore une fois, le nom de petits prophètes, ce n'est pas par leur petite influence ou leur petite importance, c'est par la petite quantité d'écrits qu'ils ont produits. On a les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel qui ont beaucoup écrit dans leurs prophéties. Là, on a des prophéties assez brèves, mais qui sont tout aussi importantes et tout aussi pleines d'enseignements pour nous, sur qui 2018 est arrivé. Juste le nom de Nahum, et peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de cet homme, Sachez que son nom voulait dire encouragement, réconfort, consolation. C'est en fait une contraction du nom de Néhémie, l'autre grand personnage qui a le nom similaire. Néhémie qui avait annoncé la reconstruction du temple et de Jérusalem, qui lui était la plénitude du réconfort. Donc là, c'est un livre qui est supposé réconforter. En même temps, je me souviens la première fois que, nouveau chrétien, j'avais lu ce livre, j'avais été frappé personnellement par la puissance de colère de Dieu. Et on va voir dans les premiers versets qu'on a un portrait de l'Éternel, de Dieu. Là aussi, il est décrit en termes humains. Même si lui n'est pas homme, Jésus est parfaitement homme et parfaitement Dieu, mais l'Éternel, il est décrit en termes humains parce que c'est tout ce à quoi on peut se référer quand on est homme et femme. On sait ce que c'est que la jalousie, on sait ce que c'est que la vengeance, on sait ce que c'est que la fureur. Et on fait donc, c'est un procédé qu'on appelle de l'anthropomorphisme. On met des termes humains pour décrire une forme ou quelque chose. Donc on parle des fois de l'œil de Dieu. Dieu n'a pas un gros œil, même s'il voit tout, s'il sait tout. Et donc ça explique. Mais cette première partie qu'on va lire, les versets 1 à 8, à 9, on va lire, c'est... dans le texte original, ça a été écrit en hébreu, c'est sous la forme de ce qu'on appelle un acrostiche, c'est-à-dire que ça commence par chacune des lettres de l'alphabet. En français, ce serait A, B, C, D, là c'est Aleph, Bêta, etc. Beth, Aleph, Beth, etc. Et c'est une procédé qui permet de se rappeler les choses. C'est important de se souvenir des paroles de Dieu. Et un procédé pratique, un procédé mnémonique ou mnémotechnique, c'est d'associer à chaque partie du discours une lettre. Et donc là, c'est juste pour ceux qui seraient intéressés de connaître l'hébreu, de lire l'hébreu. Lisons ensemble. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche. Il met tous les fleuves à sec. Le Bazan et le Carmel sont flétris, elle est flétrie, la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se propage comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne s'élèvera pas deux fois, car entrelacés comme des buissons d'épines et comme ivres de leur vin, ils seront dévorés comme la paille sèche entièrement. Nahum, donc, dont on sait peu de choses historiquement, on sait que son nom voulait dire donc réconfort, celui qui console. On sait qu'il était en premier verset, c'est le message sur Ninive, livre de la vision de Nahum d'Elkosh. Donc il y avait une ville qui s'appelait Elkosh. On n'est pas sûr de son emplacement exact. Il y a plusieurs hypothèses. On pense sans doute que c'était quand même dans le... Il y a une possibilité que c'était près de Ninive, mais on pense plutôt que c'était en Galilée. Et les allusions fréquentes à des endroits d'Israël, de Juda, font qu'on pense que c'était plutôt quelqu'un qui était de la région de Galilée. Et pour soutenir cette hypothèse, on se base sur l'existence du village que Jésus utilisait comme base de ministère en Galilée, qui s'appelle Capernaum, qui veut dire le village de Nahum. Donc peut-être que c'était de là qu'il était, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait sur lui, ou toutes les hypothèses que l'on peut formuler le concernant. On sait aussi que d'après les dates qui sont évoquées ici, que c'était à peu près, cette prophétie a été prononcée en l'an 630 dans ces eaux-là, avant Jésus-Christ, et que c'était un contemporain d'autres prophètes bien connus comme Sophonie, même peut-être Ésaïe et Jérémie. On a vu que certains prophètes, des petits prophètes, s'adressaient ou parlaient d'un seul territoire. Vous vous souvenez peut-être, c'était avant Romain, donc ça remonte à plusieurs mois. On avait parlé d'Abdias. Lui, il se focalisait sur le territoire d'Édom, les Édomites. La semaine prochaine, vous entendrez parler d'Habacuc, qui lui va se focaliser sur les Babyloniens, ce qu'on appelait aussi les Chaldéens. Et donc notre Nahum, lui, il se focalise sur Ninive. Ninive, on en a parlé lorsqu'on a étudié le prophète Jonas, qui était un prophète à qui Dieu avait demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu à Ninive. Mais connaissant la cruauté des Assyriens, donc Ninive, c'était la capitale du territoire qu'on appelait l'Assyrie, pas là, plus loin Syrie, mais les Assyriens, Il avait refusé en disant « Tu fais erreur, Seigneur ». Il avait essayé de s'éloigner aussi loin possible de sa destination, la destination de Ninive. Et finalement, Dieu avait dû intervenir assez brutalement avec l'intermédiaire d'une baleine ou d'un grand poisson, plus exactement, qu'il avait ramené sur les côtes du territoire où il devait aller. Et là, il avait annoncé à Ninive que dans 40 jours, Ninive serait détruite. Et ça avait provoqué ce qui est sans doute le plus grand réveil de l'histoire. C'est une des plus grandes villes de l'Antiquité, Ninive. Et ça avait conduit à l'acceptation par ses habitants, par ses Assyriens, du vrai Dieu. Et il s'en est suivi une période de 150 ans de paix, mais malheureusement ce réveil, souvent les réveils c'est comme ça, ça commence bien et puis les générations qui suivent, ceux qui ont connu le réveil, retombent dans les tentations de la chair, de l'orgueil, et les gens s'éloignent encore de Dieu. Nous, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réveil en France. Il y a eu des mouvements, des églises, des mouvements d'églises qui ont été utilisés comme les assemblées de Dieu en France dans les années 1930-40, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été utilisées par Dieu. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un réveil à l'échelon national. Et on peut prier pour ça en priant que le moment où c'est trop tard, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime, Dieu veut pardonner, mais il y a un moment où le pardon fait place au jugement. Et c'est toujours très dangereux de rejeter l'amour de Dieu, d'attendre qu'il soit plus tard dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le moment du salut. Si vous sentez l'appel de Dieu, vous devez répondre aujourd'hui, pas remettre à demain. On ne sait jamais ce que demain nous réserve et comment Dieu va décider du sort des hommes d'une région, d'un pays. On va voir aussi que c'est important de le réaliser, que Dieu est un Dieu personnel. Il traite les gens personnellement. Chacun de vous peut avoir une relation personnelle avec Dieu, mais il a aussi un dessein pour des villes, pour des pays, pour des nations entières. Et c'est intéressant de le réaliser, de voir qu'on a une responsabilité personnelle, mais en tant que membre d'une collectivité, on a une responsabilité collective. Alors, bien sûr, au niveau d'une nation, au niveau d'un peuple, c'est vrai, mais même déjà au niveau de la plus petite collectivité, au niveau de la famille, on a une responsabilité devant Dieu. On a une responsabilité au niveau de l'Église. Chacun de nous a une influence sur l'Église. Votre engagement, la façon dont vous considérez Dieu, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose, vous dites, oh, c'est pas grave si je suis pas là. C'est une erreur. Dieu vous appelle, nous appelle tous à faire partie d'une assemblée, d'une communauté. Il nous incite même à ne pas négliger notre assemblée, le fait qu'on s'assemble ensemble. Il y a quelque chose qui est présent lorsqu'on est tous ensemble, qui dépasse ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est tout seul. Et notamment le fait qu'on peut être très bien tout seul avec sa Bible, tous les dimanches matins, disant que c'est merveilleux, j'écoute de la louange, je lis la parole, et tout va bien. Mais une chose importante, c'est d'être confronté au péché des autres et d'être confronté à notre propre péché vis-à-vis des autres. Et ça ne se vit pas quand on est tout seul. En général, quand je suis tout seul, je ne me dispute pas trop. Mais lorsque je suis avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui font des choses que je considère comme des erreurs, là, je vais devoir traiter ou considérer mon propre péché, mon propre orgueil, ma colère, mes paroles qui peuvent blesser. Donc ça, c'est juste pour dire que là, il parle de Ninive maintenant comme un bloc. Et on voit des caractéristiques de Dieu. C'est comme un portrait de l'Éternel qui est dressé. Dieu, l'Éternel, est un Dieu jaloux. Il se venge, il est plein de fureur. Il se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Certains d'entre vous, ou des gens qui liraient ça pour la première fois sans voir le contexte, diraient « Bref, votre Dieu, il n'est pas très chrétien. Il est jaloux, il est vengeur, il est la fureur, il est rancunier. » Ah ben alors là, il n'est pas très chrétien, votre Dieu. Là, encore une fois, ce sont des termes qu'on utilise pour parler de choses qui vont caractériser Dieu dans un sens positif. La jalousie, nous avons tendance à la connaître en tant qu'homme, comme quelque chose de négatif. Mon mari est tellement jaloux qu'il ne me laisse pas sortir toute seule. Ça, c'est pas positif. Par contre, si vous dites « Mon mari est vraiment pas jaloux, il me laisse aller danser en boîte de nuit tous les samedis soirs », là, il y a un problème. La jalousie, c'est d'avoir des sentiments d'amour pour quelqu'un au point que on ne veut pas que d'autres partagent l'intimité de cet amour. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu veut nous a créés, il veut avoir une relation d'amour avec nous. Si nous partons et que nous avons des relations d'amour avec d'autres dieux, il ne va pas apprécier. De quoi tu parles ? C'est la Bible en parle, c'est un sujet qui revient sans arrêt, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça ne veut pas dire simplement se mettre à genoux devant une petite statuette en brûlant des cierges, etc. Certains font ça. Ça veut dire simplement ne pas donner à Dieu la première place qui doit lui revenir dans nos vies. Et donc l'idolâtrie, c'est tout ce qui va être la passion de ma vie. Ça peut être mon boulot, qui est en soi n'est pas une mauvaise chose, au contraire, je dois pourvoir aux besoins de ma famille et je dois contribuer à la société, mais si ça devient la seule passion de ma vie, je deviens ce qu'on appelle un workaholic, un accro au boulot, et c'est très mauvais. Je peux avoir la passion des loisirs, mais si toute ma vie c'est d'aller d'un club med à un autre, en cherchant comment maximiser mon fun, mon amusement, ça devient une idole qui prend la place de Dieu. Notre famille propre peut prendre la place de Dieu. Dieu m'appelle à être missionnaire quelque part, mais je ne veux pas imposer cela à ma femme et à mes enfants, donc je vais rester là où Dieu voudrait que je me déplace. Et donc c'est en cela qu'il se venge. La vengeance, alors la vengeance est un plat qui se mange froid, on dit, mais c'est pour exprimer cette vengeance négative qui attend le bon moment pour frapper. La vengeance, c'est punir la source d'un mal. Il se venge de ce qui nous fait du mal parce qu'il nous aime. C'est en ce sens qu'il se venge, et il peut le faire avec beaucoup d'énergie qui ressemble à la fureur avec laquelle on peut nous prendre notre revanche sur des choses qui nous ont fait du mal. Il garde rancune à ses ennemis. Alors ça aussi, la rancune, c'est quelqu'un qui n'est pas drôle à vivre avec. Il n'est pas drôle de vivre avec quelqu'un de rancunier. C'est quelqu'un qui vous dit « bon, ça va, je te pardonne », mais vous savez qu'il y a, dans le petit livre noir, c'est marqué la date, l'heure, la durée, et il n'y a pas de pardon. Là, c'est pas dans ce sens-là que c'est dit, c'est dans le sens où Dieu ne va pas peut-être punir tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il a oublié, « oh, ça fait tellement longtemps, c'est pas grave ». Non, il va, en temps utile, autant de sa décision, autant de sa souveraineté, nous allons avoir à payer des comptes si nous sommes ennemis de Dieu. Dans le livre des Nombres 32, au chapitre 23, je ne sais pas si vous avez des moyens mnémoniques à part l'alphabet, ABCD, mais moi j'aime bien me rappeler les versets en voyant des symétries dans les chiffres, 3, 2, 2, 3, 32, 23, ça peut être votre numéro de vigique peut-être. 32, 23, qu'est-ce qu'il est dit dans 32, 23 ? Votre péché va vous retrouver. Ça évoque aussi ce passage de Paul dans Galates. Galates 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, sa chair, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » C'est là aussi pour dire que Dieu se rappelle de nos offenses. Et puis il est dit qu'il est lent à la colère. Verset 3, l'Éternel est lent à la colère. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai tendance à être rapide à la colère. C'est embêtant parce que quand on est en colère, on dit des bêtises, Nos propos vont au-delà de ce qu'on voudrait dire. Et après, la chose terrible, c'est qu'on doit demander des excuses, notamment dans le cadre du mariage. C'est humiliant de demander des excuses quand on pense qu'on a raison tout le temps. Mais il est lent à la colère, lui. Il est grand par sa force. Et puis, il ajoute, il ne laisse pas impuni. D'autres versions disent, il ne laisse pas le méchant, celui qui a fait du mal, impuni. C'est là qu'il, ce qu'on a semé, on va le récolter. C'est un principe spirituel, qui est aussi vrai que le principe physique de la gravité. Si vous pouvez dire qu'il n'existe pas, ce principe de la gravité, mais je mets au défi de marcher sur le toit et de continuer à marcher dans la rue et de voir s'il n'y a pas de gravité. C'est tout bête, mais le principe de la récolte de ce qu'on sème, c'est un principe très puissant, très réel, et qui doit nous faire frémir. Il y a des passages comme ça, on aimerait bien qu'ils ne soient pas dans la Bible. Mais le principe de la récolte, il est dans la Bible. On peut voir rapidement deux, trois aspects de ce principe. Ça prend du temps, la récolte. Daphné, à l'école, à la crèche, a planté des petites graines. Et là, maintenant, elle attend de voir les plantes sortir du petit pot de yaourt. Mais ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Sauf si elle le fait tomber ou qu'elle le laisse en plein soleil pendant 3 jours. Deuxième principe, ça va produire de la même chose que ce qui a été semé. C'est ce que dit la parole de Galates. Si on sème du bien, on va récolter du bien. Si on sème du mal, on va récolter du mal. Si on sème pour la chair, on va récolter des choses de corruption. Si on sème pour l'esprit, on va récolter de bonnes choses spirituelles. Si elle a semé des graines de pommes, il ne faut pas qu'elle s'attende à avoir des cerises. Ce sera la même nature. Et puis, normalement, si tout va bien, le principe, c'est qu'on récolte plus que ce qu'on a semé. Sinon, on ne sèmerait pas. On va semer du blé, on va pouvoir en récolter pour manger, puis on aura encore des graines à semer la saison suivante. Mais il y a toujours plus qu'on ne récolte, qu'on a semé. Et donc, c'est ça qui est inquiétant. Il ne laisse pas impuni. Il est lent à la colère, ça va prendre du temps. Mais il est grand par sa force. Et quand il décide, il va agir dans le jugement. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Dans le tourbillon, les nuages sont la poussière de ses pieds. Remarquez, c'est poétique, cette description, et en même temps, c'est poétiquement inquiétant. Ça veut dire que les nuages qu'on voit, et des fois on voit des super nuages et des éclairs, c'est comme la poussière de ses pieds. Il marche, et pff, un peu de poussière ici à droite, il marche dans la tempête, dans le tourbillon. On a des discussions, ou on espère qu'il y aura des discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord pour limiter l'équipement nucléaire. On dit qu'en fait, dans une seule tempête, Irma, ou on leur donne toujours des noms, Andrew, les tempêtes tropicales qui arrivent souvent à la fin de l'été, qui se forment dans l'Atlantique et qui peuvent détruire des villes entières, qui a plus d'énergie dans une seule de ces tempêtes, dans un seul de ces ouragans, que dans tout l'arsenal nucléaire disponible en ce moment dans le monde. Il y a une puissance fantastique. Et Dieu, il a cette puissance. Il menace la mer et il la sèche. Ça fait bien sûr référence à la mer des joncs, passage de la mer, on dit la mer rouge. Il met tous les fleuves à sec. Le Jourdain, vous vous souvenez, lorsqu'ils avaient pu traverser à pied le Jourdain. Le Bazan et le Carmel et le Liban, ce sont des régions très belles, où on produit beaucoup de fruits, de légumes. Ce sont des régions agricoles très fertiles. Mais là, il est capable de flétrir, de faner tout ça. Les montagnes tremblent devant lui, les collines s'effondrent, la terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Les tremblements de terre, les volcans, tout ça, ça fait partie de sa puissance, ça peut être des manifestations de sa puissance. Qui résistera devant son indignation ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se propage comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Il y avait des images il n'y a pas très longtemps dans les médias de coulées de lave à Hawaï qui brûlent toutes les maisons qu'elle rencontre. Dieu a une puissance de punition fantastique, terrible. Mais on avait vu au verset 3 qu'il était lent à la colère. Maintenant, verset 7, l'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ce qui se confie en lui. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre logiciel personnel. Dieu est bon. On a des chants qui le chantent, mais il y a surtout des versets qui l'affirment. On aime bien dire, il est bon et il est bon tout le temps. Même lorsqu'on reçoit des choses qui nous semblent mauvaises, on sait que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Romains 8, 32. Il est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Qu'est-ce que c'est que le jour de la détresse ? Ça peut être n'importe quelle journée où des problèmes terribles nous tombent dessus. Ça peut être le moment où on a un mauvais diagnostic chez le docteur. La tumeur n'est pas bénigne. On a l'impression que le monde s'effondre sous nos pieds. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être le meurtre d'un enfant. Toutes ces choses, je vous laisse penser à qu'est-ce qui serait pour vous le jour de la détresse. Il y en a malheureusement plus d'un dans une vie. Mais il est un refuge. Le nom de l'Éternel est une haute tour. Celui qui s'y réfugie est en paix. Dans ces épreuves, on peut aller à Dieu et lui dire « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu es bon, je te fais confiance. Soutiens-moi, tiens-moi, porte-moi dans tes bras. Ne me laisse pas dans cette souffrance, ne me laisse pas dans cette peur, dans cette angoisse. » Et une chose qui est remarquable, c'est qu'il connaît ce qui se confie en lui. Si vous venez à lui pour lui remettre vos chagrins, vos détresses, il vous connaît. « Ah, salut Pierre, ça fait un moment que tu ne m'avais pas parlé. Comment tu vas ?» Il connaît, il est personnel. Mais il est dit, verset 8, « Avec des flots qui déborderont, il détruira cet endroit, il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. » On pense souvent que l'enfer, c'est un endroit où il y a des flammes, donc on pense qu'il y a beaucoup de lumière. Mais plus souvent dans la Bible, la description de l'enfer, c'est un endroit de détresse, de noirceur, d'obscurité complète. Et l'obscurité, les ténèbres, c'est quelque chose de très angoissant. Verset 9, « Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui détruit. La détresse ne s'élèvera pas deux fois. Que méditez-vous contre l'Éternel ? » C'est-à-dire, je vois que vous essayez de manigancer quelque chose. Vous vous dites, il nous menace de faire tomber la ville, mais on va construire des murailles encore plus fortes. On va acheter des armes meilleures. Mais au fin du fin, c'est lui qui a la puissance qui peut détruire. C'est lui qui détruit. La détresse ne s'élèvera pas deux fois. Là, on peut penser qu'il fait référence à ce qui s'était passé avec Jonas, qui avait prédit la fin de Ninive si les gens ne se repentaient pas. Il s'était repenti. Et puis là, maintenant, il annonce que parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, là, il n'y aura pas de deuxième chance. La détresse ne s'élèvera pas deux fois. Et il parle, on a vu, des flots qui vont détruire Ninive. Mais là, il parle aussi du feu. Il dit qu'ils sont comme des buissons d'épines. Ils seront dévorés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui... On va lire versets 11 à 14. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, l'homme au conseil pervers. Voici ce que dit l'Éternel. Même s'ils sont au complet et nombreux, ils seront fauchés et disparaîtront. Je t'ai humilié pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi et j'arracherai tes liens. Voici ce que l'Éternel a ordonné à ton sujet. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je supprimerai du temple de ton Dieu les sculptures sacrées ou les idoles en métal fondu. Je préparerai ta tombe car tu ne fais pas le poids. Ça, c'est l'annonce de la destruction de Ninive. Après avoir montré le caractère, il fait allusion sans doute au roi dont il est question dans 2 Rois 18, 2 Chroniques 32, Ésaïe 36. C'est le roi Sanchérib ou Sennachérib, suivant les traductions, qui avait envoyé un personnage qu'on appelait le Rabshakeh. Si vous étiez avec nous pendant les études de ces livres, on a beaucoup parlé du Rabshakeh. C'était quelqu'un qui humiliait le peuple de Dieu en disant « Vous croyez que votre Dieu il va vous sauver, mais où était le Dieu de la ville qu'on a détruite la semaine dernière et celle qu'on a détruite il y a 2 ans ? Votre Dieu ne va pas faire le poids. » Et là, c'est celui qui méditait le mal contre l'Éternel, l'homme au conseil pervers. Il leur disait « Vaut mieux vous rendre tout de suite, Dieu ne va pas vous sauver. » Et pourtant, on sait que sous le règne du roi Ézéchias, il y a eu des grandes délivrances des armées des Assyriens. Des anges sont intervenus, il y a eu où ils ont été appelés en Égypte parce qu'il y avait d'autres problèmes. Et finalement, c'est Dieu qui a prévalu. Il dit, verset 12, « Même s'ils sont au complet et nombreux, c'est en fait ils seront fauchés, disparaîtront. » Ça, c'était une formule légale assyrienne qui voulait dire « comme un seul homme ». Même s'ils se dressaient tous ensemble, Dieu va les détruire. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi, j'arracherai tes liens. Ça, c'est parlant au peuple juif qui était dominé par ce peuple assyrien, qui était menacé en permanence. Je briserai la domination. Ça, c'est du réconfort. Ça, c'est du Naoum. Naoum, moum, moum. Naoum. Ça était quelque chose, c'était du baume au cœur des juifs qui lisaient, qui entendaient cette prophétie. C'était une prophétie, on va voir, on n'aura peut-être pas trop le temps, mais on va en parler rapidement, de la destruction qui va intervenir, qui est très graphique. Et on a l'impression que c'est une description historique, mais il faut se rappeler que c'est une description prophétique. Dieu authentifie son texte en utilisant des prophéties. Les prophéties, c'est des choses que les hommes ne peuvent pas faire parce que c'est pour prédire le futur. Et nous, on a la chance de savoir que ce qui a été prédit à l'époque, et on sait que c'était à l'époque, ça s'est produit dans leur futur, ça s'est produit maintenant dans l'histoire. Et puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des prophéties qui n'ont pas encore été accomplies et qui vont s'accomplir dans le futur. Et basé sur la façon dont les prophéties anciennes se sont matérialisées, se sont réalisées, on peut avoir entièrement confiance que ces prophéties futures, elles aussi, vont se réaliser. Et il leur a dit, voici ce que l'Éternel a donné à ton sujet, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. C'est quand la dernière fois que vous avez rencontré un Ninivite? Ça n'existe plus les Ninivites. Il y a des gens qui habitent dans la région où se trouvait Ninive. Je supprimerai ton temple, les sculptures sacrées, je préparerai ta tombe, je t'enterrerai car tu ne fais pas le poids. Aussi puissante était la Syrie, elle n'était rien du tout face à Dieu. Et Dieu a tellement détruit la Syrie et Ninive qu'il a fallu attendre 1840 pour trouver des traces de cette cité antique gigantesque. C'était même un sujet de moquerie de ceux qui contestaient la Bible. Ils disaient, regardez, il part d'une ville qui s'appellerait Ninive. On aurait retrouvé des restes maintenant s'il y avait une grande ville comme ça. Ça a pris du temps, comme la moisson, mais en 1840, on a commencé à retrouver. Et cette ville, maintenant, elle est en face de Mossoul, la ville dont on a parlé récemment, en Irak. Donc, Ninive a été complètement détruite. Verset 2, chapitre 2. « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, fortifie-toi, rassemble toute ta force. » C'est un passage qui est utilisé dans le prophète Ésaïe, qui était contemporain de Nahum, et aussi qui a été repris par Paul pour dire que les pieds qui annoncent une bonne nouvelle, ça allait être l'annonce de la paix, que Ninive serait détruite. Paul, c'était le fait que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, on doit l'avoir prête à annoncer. On doit même s'en chausser les pieds, il est dit dans Éphésiens 6. C'est quelque chose de fantastique. Il nous dit de célébrer, il dit au peuple de Juda de célébrer ses fêtes. Et il nous dit aussi, nous, de célébrer notre victoire en Jésus-Christ. La joie, la célébration, ça devrait faire partie de notre quotidien d'église. On devrait être heureux de se retrouver, de se remémorer les victoires que Dieu a emportées et les victoires finales que Dieu a promises. Il décrit les boucliers, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob, la gloire d'Israël, parce que les pierres les ont pillés et ont détruit les sarments de leurs vignes. Donc il promet la restauration d'Israël, il parle des fois de Juda et d'Israël, parlant des deux territoires. Israël, c'était le territoire du nord, des 10 tribus, dont la capitale était Samarie. Et Juda, c'était les deux tribus du sud, dont Jérusalem était la capitale. Il va rétablir. Le roi de Ninive va essayer de se souvenir de ces hommes, de les rappeler, mais ils vont tomber. Les portes, verset 7, qui donnent sur les fleuves sont ouvertes, le palais s'écroule. C'est la façon dont Ninive est tombée. C'était une ville qui était bâtie de façon impressionnante sur le confluent du Tigre et d'une rivière qui s'appelle le Cocher. Et il y avait des murailles qui suivaient le long de la rivière. Donc avant d'attaquer, il fallait passer la rivière, etc. C'était très impressionné. On dit que les murailles, on pouvait faire courir 3 chariots côte à côte sur les murailles. Il y avait 1500 tours de 60 mètres de haut. Ils étaient sûrs de leur coup. Et pourtant, le Seigneur a utilisé des gouttes d'eau. La pluie est tombée. Il y a eu des inondations. Et les inondations ont fait tomber. Là-bas, ils faisaient des murs en briques. Et les murs en briques, ça résiste mal à l'eau parce qu'elles tombent une à une. Et une fois que ça commence, ça ne s'arrête pas, ça se précipite. Ninive, verset 9, était auparavant comme un réservoir plein d'eau. Et les voilà qui fuient. Ça, c'est allusion à cette... Certains disent que même les assaillants, les Babyloniens, c'est les Babyloniens et les Mèdes qui ont fait tomber Ninive, avaient bâti un barrage en plus. Donc quand il y a eu toutes ces pluies, puis ils ont laissé l'eau couler, ça a fait ce qui s'est passé à Fréjus en 1960. Le barrage de Malpassé, tout est détruit. Verset 11, on pille, on dévaste, on détruit. Carnage, saccage, ravage. C'est une expression dans la Bible Second, très très imagée de tout ce qui se passe. Le courage fond, les genoux flageolent. Il parle des lions. Les Assyriens, comme les Babyloniens d'ailleurs, aimaient bien se comparer à des lions. Parce que le lion, c'était le roi des animaux, il était fort, il faisait peur à tout le monde. Mais l'épée dévorera tes lionceaux, verset 14. J'arracherai ta proie du pays, l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Et puis finalement, Dieu justifie au chapitre 3 sa destruction de Ninive en rappelant que c'était une ville sanguinaire. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cessait de se livrer au pillage. Il y a une description fantastique, très poétique, même si c'est terrible, des cavaliers qui chargent, de l'épée qui étincelle, de la lance qui brille, des multitudes de blessés, une foule de cadavres. C'est à cause de tes nombreuses prostitutions. C'est au sens probablement physique, mais surtout moral. Il pensait qu'il pouvait acquérir tout ce qu'il voulait avec l'argent. Elle se livrait à la magie, à des choses qui sont abominables devant Dieu. Et l'Éternel leur promettait d'exposer leur honte. Il disait « Je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur au royaume en relevant les pans de ta robe jusqu'à ton visage. » C'est une façon imagée de montrer qu'ils vont humilier. Et on dira « Ninive est détruite, qui la plaindra ?» Personne ne se plaindra de ce que cette ville sanguinaire soit détruite. Il leur rappelle qu'ils ont détruit la ville de Noamon, qui est en fait la capitale de la Haute-Égypte, qu'on a connue sous le nom de Thèbes, aujourd'hui à la ville de Louxor, que les touristes vont visiter. Cette ville a été aussi détruite par les Assyriens, de la même façon, avec des inondations, ils ont pris la ville, ils l'ont détruite, ils ont emmené en exil, parti en déformation, ses enfants ont été écrasés, verset 10, au coin de toutes les rues. On a tiré au sort ses nobles, tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu vas subir le même sort. C'est la Galate 6. Tu as semé cela, ça va prendre du temps, mais ça va arriver, ça sera encore pire que ce que tu as fait aux autres. Voici ton peuple, ce sont des femmes qui sont au milieu de toi. Ça veut dire que les hommes se comportent de façon faible, ou même que des femmes doivent prendre les rênes du gouvernement. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis, le feu a brûlé les verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses. Pardon. Il prédit donc un siège avant la chute de la ville. Le feu dévorera, c'est la promesse d'une punition par le feu, comme des grillons, l'épée exterminera, comme des sauterelles, le soleil brille, il s'envole, on ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. Ça va être terrible. Verset 18, la fin du petit livre de Nahum. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes se reposent, tes troupes sont dispersées sur les montagnes, personne ne les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. On va applaudir. Ninive a été détruite, alléluia. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Et donc on voit que Dieu ne laisse pas impuni. Comment ça s'applique à nous en 2018? Laissés à nous-mêmes, à notre chair, nous nous prostituons, nous avons des idoles et nous méritons la punition de Dieu. Nous méritons la punition à cause de nos péchés. Lorsqu'il est dit que, on l'a lu, Dieu ne... c'était l'autre page, pardon. Il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni le méchant. Il ne laisse pas impuni le pécheur. C'est pas très Naoum. C'est pas très réconfortant. Parce que je sais pas pour vous, mais je sais que le péché est en moi et il se manifeste par des péchés. Je commets des péchés. Je ne suis pas pécheur parce que je commets des péchés. Je commets des péchés parce que je suis pécheur. Dans ma moelle intérieure, dans mon moi intérieur. Et s'il punit le péché, je vais être détruit aussi. Et c'est là que nous devons être dans la joie, parce qu'il y a un libérateur, Jésus-Christ, qui est venu, lui, pour prendre mon péché, mes péchés, et a été puni à ma place. Mon péché n'a pas été impuni. Mon péché a été puni en Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix. Et ça doit nous donner envie de célébrer nos fêtes, célébrer avec joie. On voit la puissance infinie de Dieu pour punir. Et quand j'avais lu la première fois ce passage qui montrait la colère de Dieu, la furie de Dieu contre les pécheurs qui étaient les Assyriens, je frémissais. Et ça m'a d'autant plus porté à accepter le salut en Jésus-Christ que j'ai compris que lui avait porté mon péché. Mais il faut mieux être trouvé en lui au jour du jugement que face à un Dieu puissant, rancunier, vengeur, jaloux, dans tous les bons sens du terme, parce que je ne fais pas le poids. Je préparerai ta tombe car tu ne fais pas le poids. Et donc on voit comment ce petit livre, il doit nous encourager à courir, à nous réfugier dans le Seigneur. Il aime ceux qui se confient en lui. On peut échapper à toutes ces choses terribles, à cet enfer qui nous est promis si nous ne sommes pas avec lui. La décision nous appartient. C'était l'histoire de cet homme qui était anti-athée, qui détestait les chrétiens. Je vais essayer de me souvenir de l'histoire. Et donc, il avait pris un petit oiseau qu'il avait mis dans sa main et il avait demandé à son ami chrétien, « J'ai un petit oiseau dans la main, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort ?» Et l'homme, le chrétien, s'était dit, « Si je lui dis qu'il est mort, il ne va pas l'écraser. » Il va dire, « Tu t'es trompé, tu vois, ton Dieu ne t'a pas donné la vérité. Mais si je lui dis qu'il est vivant, là, il va l'écraser. » Alors là, inspiré par le Saint-Esprit, là, il lui a dit, « La décision est entre tes mains. » Et pour nous, c'est la même chose. Le salut, il est entre nos mains dans le sens où c'est à nous d'accepter ce salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour le réconfort de Nahum. Merci de voir le contraste entre ta puissance et ton amour où tu es allé jusqu'à offrir ton propre fils pour nous offrir une solution. Et Seigneur, je prie pour que ceux qui ne sont pas réfugiés en toi encore, parce que nous savons que tu es bon, tu es un refuge au jour de la détresse, que tu connais ceux qui se confient en lui, je prie que ceux qui ne te connaissent pas encore viennent à toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, Seigneur. On ne veut pas laisser le péché que nous semons aller jusqu'à son terme pour nous retomber dessus, Seigneur. On sait que notre péché nous retrouvera, sauf si c'est Jésus qui le reçoit. Si parmi nous, il y en a qui n'ont jamais encore fait cette démarche de venir à Dieu, de venir au Seigneur, je vous invite à prier en silence, brièvement. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je fais du mal à moi-même, je fais du mal autour de moi et je sais que je te fais du mal. Et Seigneur, je vois que parce que tu es un Dieu juste, tu ne peux pas laisser le péché impuni. Mais Seigneur, tu me dis que si j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ, alors c'est lui qui porte mon péché. Seigneur, je viens à toi et je te donne mes péchés. Je reçois en échange ta justice. Seigneur, je me détourne, je me repens de mes péchés et je veux marcher maintenant avec toi. Dirige ma vie, Seigneur. Merci pour ce sacrifice d'amour qui m'évite le châtiment que je mérite. Ce sacrifice d'amour qui me donne la vie éternelle avec toi. Amen. Et pendant que nous sommes toujours dans le recueillement, si vous avez prié cette prière, je vous demanderai simplement de me faire un petit signe, de me lever votre main. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis par... pour ceux qui ont levé la main, par l'assurance que Dieu vous connaît, parce que vous êtes confiés en lui. Il est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Soyez bénis. Et pour nous tous, soyons des instruments de paix. Proclamons cette bonne nouvelle autour de nous. Nous le demandons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.